Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Saintès.
Bonsoir Charline et les garçons, à demain pour de nouvelles aventures. Nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et comme tous les soirs, c'est avec le journal que l'on commence. Et Amélie Perrier, bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence avec trois lettres.
RIP, c'est la première fois qu'un référendum d'initiative partagée pèse sur le débat politique des parlementaires. Plus de 200 ont signé contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut maintenant les paraphes de plus de 4,5 millions de citoyens. Votre dernière déclaration d'impôt à remplir à partir d'aujourd'hui, c'est obligatoire, malgré le prélèvement à la source, mais c'est la dernière fois. Des manifestations réprimées en Algérie à coups de gaz lacrymogène, les étudiants ont manifesté contre le tout nouveau président par intérim, un pur produit de l'ancien système. Et vous avez aimé la guerre commerciale entre les Américains et les Chinois, vous adorerez celle entre Washington et l'Union Européenne, partie d'un tweet ce matin de Donald Trump. Des averses demain, la météo avec Sébastien Léas à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde en Israël, ce soir Israël qui vote. Nous vous emmenons dans la société israélienne ce soir. La campagne a été centrée sur la sécurité par Benjamin Netanyahou, mais nous parlerons aussi sociale et la place aussi désormais d'Israël dans le monde. Nous sommes également au fond de l'eau ce soir avec des oreilles d'or sur une autoroute à sous-marin. Et puis 19h20, le téléphone sonne, grand débat, l'heure de la sortie a sonné. En attendant les conclusions d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe depuis hier envoie des signaux, quelques pistes aussi. Est-ce que c'est pour préparer le terrain du président ou la preuve que l'exécutif a bien compris les messages envoyés, c'est ce qu'on verra ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce n'est pas un RIC comme ceux réclamés par les Gilets jaunes, mais c'est un RIP.
Un référendum d'initiative partagée qui vient de franchir une étape inédite. Le seuil des 185 signatures de parlementaires a été dépassé. Socialistes, communistes et de droite, 218 ont signé contre donc la privatisation d'Aéroports de Paris. La vente de cette poule aux œufs d'or, disent les opposants au projet, est inscrite dans la loi Pacte sur les entreprises en cours d'examen au Parlement. Maxence Lambrecq, pour aller au bout, ce serait une première, hein, ce RIP doit encore être signé par 4,5 millions de citoyens et validé par le Conseil constitutionnel. Mais c'est déjà une opération politique inédite, Maxence.
Oui, on n'a jamais vu une telle photo de famille dans la salle de presse de l'Assemblée. La communiste Marie-Georges Buffet à côté d'élus centristes, de socialistes, d'insoumis et d'élus de droite.
C'est l'opposition nationale dans son ensemble qui réclame au gouvernement un peu de bon sens.
Robin Reda, député LR, voisin d'Orly.
Le bon sens, ça n'est pas de privatiser nos aéroports de Paris, ça n'est pas de privatiser une frontière, ça n'est pas de privatiser un actif stratégique qui rapporte des millions d'euros dans les caisses de l'État chaque année. Et le bon sens fait fi de toutes les différences idéologiques.
L'opposition essaie donc de surfer sur les gilets jaunes et le grand débat en proposant ce référendum. C'est une grande première. Reste à avoir maintenant le feu vert du Conseil constitutionnel et s'ouvrira alors une consultation en ligne. Il faudra en 9 mois réunir 4 700 000 signatures. Ce n'est jamais arrivé, mais l'insoumis Éric Coquerel y croit.
Il serait étonnant que nous n'arrivions pas à trouver 6 signatures, d'autant plus que je suis certain que de manière très majoritaire, les Français sont opposés à cette privatisation.
En face, la majorité paraît sereine, le député Roland Lescure.
Écoutez, c'est le sauf qui peut des oppositions. On est dans le money time, on est à 2 jours de la fin du match. On va voter cette loi, ils se réveillent, alors que ces débats, ils ont eu lieu pendant des mois. Moi, je trouve ça ridicule.
Cette démarche ne suspend pas les travaux de l'Assemblée qui devrait adopter ce projet de loi après-demain.
Merci Maxence Lambrecq. Et justement, des gilets jaunes devaient être reçus au Sénat par la commission spéciale sur ce projet Pacte et la privatisation d'ADP. La rencontre a été annulée à la dernière minute à cause apparemment de la présence et de la médiatisation d'Éric Drouet, l'un des représentants les plus connus du mouvement. Édouard Philippe poursuit, lui, le service après-vente du grand débat à l'Assemblée nationale ce soir. Il présente les enjeux et le sens politique, mais les propositions concrètes se font attendre. Emmanuel Macron doit les rendre publiques dans les jours à venir. Les impôts, l'équité fiscale au cœur des préoccupations. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'est lancée la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu. Encore obligatoire malgré le prélèvement à la source mis en place au début de l'année. 38 millions de foyers vont devoir remplir les formulaires du fisc, mais c'est la dernière fois, Delphine Simon.
Avec le prélèvement à la source, plus besoin de renseigner tous les ans des informations mises à jour plus rapidement. L'an prochain, beaucoup n'auront donc plus à la remplir. Mais cette année, il ne faut pas l'oublier. D'abord parce qu'elle sert à calculer le taux d'imposition que vous recevrez à l'automne. Elle conditionne aussi toute une série d'aides sociales comme le RSA ou les allocations familiales. Explication du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.
Cette année, il faut faire sa déclaration d'impôt. Et sans doute est-ce la dernière fois pour une partie des contribuables, notamment grâce aux améliorations née du prélèvement à la source, mais aussi de la simplification générale que nous a demandé de mettre en place le président de la République. Il y aura l'année prochaine 8 millions de contribuables, 8 millions de foyers, n'auront pas à renvoyer leur déclaration d'impôt en 2020, parce que leur vie fiscale ne change pas.
Autre nouveauté, vous ne serez pas imposé sur les revenus de 2018 pour éviter de payer deux fois. Bercy a prévu une année blanche pour vos salaires, pensions et autres revenus réguliers. En revanche, il faut toujours déclarer vos revenus exceptionnels, ceux que l'on ne touche qu'une seule fois, comme les dividendes, les primes de départ en retraite ou de licenciement et certains rachats de CET. Une déclaration à remplir en ligne sur votre espace fiscal. Ceux qui en seraient empêchés pourront toujours recevoir une déclaration papier.
Un registre national pour recenser toutes les prothèses mammaires implantées en France quelques jours après l'interdiction de plusieurs modèles accusés de provoquer des cancers. Les autorités sanitaires annoncent la mise en place de ce registre cet été. Un recensement réclamé par les patientes pour améliorer le suivi. La CNIL vient de donner l'ultime feu vert. Le procès de marchands de sommeil à Bobigny en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Un couple, leur fils et sa compagne, comparaissaient pour avoir logé des dizaines d'Indiens dans des conditions indignes, entassés dans des pavillons. Bonsoir Laurélie Carive.
Oui, turban violet, longue barbe blanche, le père de famille, sexagénaire, qui se présente comme un membre important de la communauté sikh, semble ne pas vraiment comprendre ce qu'on lui reproche. Ça fait 39 ans que je suis là, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, affirme-t-il, avec l'aide d'un interprète. Pourtant, dans un pavillon qui lui appartient au Bourget, les conditions de logement étaient insalubres, moisissures, cafards, installations électriques défaillantes, pièces sans fenêtres, 18 logements en tout pour 52 locataires. Ils étaient par exemple 6 occupants dans un 14 mètres carrés pour un loyer de 600 euros. Des locaux initialement réservés aux vélos et aux poubelles avaient été transformés en habitation. Le prévenu, qui a dirigé pendant 20 ans une entreprise de bâtiments, reconnaît une part de responsabilité quant au mauvais système d'aération de certains logements. Mais pour le reste, ce sont les locataires, dit-il, qui ont dégradé les lieux. Des locataires qui étaient tous de nationalité indienne, détenteurs de contrats de location pour certains. Ils m'ont montré des papiers européens, italiens et espagnols. Je ne savais pas qu'ils étaient en situation régulière. Et puis je n'ai forcé personne à vivre là, dit-il. Ils étaient heureux. C'est pourtant l'un des locataires qui est allé se plaindre auprès de la police municipale il y a 3 ans.
Le procès se poursuit demain à Bobigny. Merci beaucoup, Laurélie Carive.
Un nouveau chef de l'État en Algérie est la rue, Amélie, qui ne décolère pas.
Pour la première fois quasiment depuis le début des manifestations, il y a 7 semaines, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers d'étudiants. Ils protestaient à Alger contre la nomination d'Abdelkader Ben Salah au poste de président par intérim. Nomination comme le prévoit la Constitution. Mais les manifestants ne veulent pas de ce pur produit du régime Bouteflika. Laïla Berato nous appelle d'Alger.
Abdelaziz Bouteflika a 82 ans. Abdelkader Ben Salah, lui, en a 78. Le nouveau président par intérim est un pur produit du système algérien. Ancien journaliste, il est élu député de la région de Tlemcen en 1977, puis il devient ambassadeur. En 1997, il participe à la création du RND, le deuxième parti du pays très proche du FLN. Le parti remporte les élections législatives et Abdelkader Ben Salah prend la tête de l'Assemblée populaire nationale. 5 ans plus tard, son mandat s'achève et il est nommé sénateur par le président Abdelaziz Bouteflika. Il est à la tête du Conseil de la Nation depuis cette année 2002. Abdelkader Ben Salah, lui aussi affaibli par la maladie ces dernières années, est un fidèle d'Abdelaziz Bouteflika. Il est aussi très proche de l'ancien Premier ministre Ahmedou Yahya. Pendant 90 jours, il a désormais les rênes de l'Algérie, mais ses prérogatives sont limitées. Il ne peut pas nommer de gouvernement, réviser la Constitution, dissoudre le Parlement ou encore appeler à un référendum. Il devra cependant organiser une élection présidentielle. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Jour de vote en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou joue son avenir à la tête de l'État hébreu. L'issue du scrutin est incertaine entre le Likoud de Bibi, le surnom de Netanyahou, et l'alliance menée par Benny Gantz, ancien chef d'État-major, entré en politique il y a quelques mois seulement. Après la publication des résultats, ce sera au président Reuven Rivlin de désigner celui qui sera capable de former une coalition majoritaire au Parlement. Mauvais perdant, Erdogan en Turquie. Le parti du président AKP réclame de nouvelles élections municipales à Istanbul, où il a été battu selon des résultats provisoires. Une claque pour le chef de l'État à Istanbul, où il est né, où il a été maire. Le Haut Comité électoral a déjà rejeté la demande de recomptage de tous les votes de la mégapole turque. Grismino, FMI, le Fonds monétaire international revoit à la baisse quasiment toutes ses prévisions de croissance, des États-Unis à la zone euro, en passant par le Royaume-Uni, le Japon, l'Amérique latine ou le Moyen-Orient, tous devraient ralentir cette année. La faute du Brexit, mais surtout de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et puis, un autre conflit commercial pourrait faire mal entre les États-Unis et l'Union européenne. Le président Trump a menacé ce matin le vieux continent sur Twitter. Furieux contre les subventions européennes versées à Airbus, il brandit en représailles des taxes sur 11 milliards de produits européens. Grégory Phillips, notre correspondant à Washington, c'est un nouvel épisode dans la guerre entre Airbus, l'européen, et Boeing, l'américain.
Ça fait des années que l'Union européenne profite des États-Unis, vitupère Donald Trump dans un tweet matinal. Et ça va bientôt s'arrêter. Le président américain ajoute que son pays va imposer des taxes sur les produits européens à hauteur de 11 milliards de dollars, mais sans préciser quand et comment la menace sera mise à exécution. Au cœur de ce nouveau bras de fer, les subventions que l'Union européenne et les États-Unis accordent chacun de leur côté à Airbus et Boeing. Le représentant américain au commerce juge qu'elles sont pénalisantes pour le constructeur aéronautique américain, qui en plus connaît des difficultés actuellement avec son programme 737 MAX. Hier, Robert Lighthizer avait même publié une première liste de produits européens susceptibles de faire l'objet de mesures de rétorsion. Ça va de l'huile d'olive au steak d'espadon en passant par les fromages ou les fruits. Dans ce catalogue, il n'est pas fait mention des automobiles fabriquées en Europe, pourtant dans le viseur de la Maison-Blanche, et que Trump promet régulièrement de taxer lourdement. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
La Britannique Theresa May à l'Elysée cet après-midi, après avoir rencontré la chancelière Angela Merkel à Berlin. Elle a continué sa tournée à Paris, donc, pour plaider sa cause auprès d'Emmanuel Macron et obtenir un report du Brexit au 30 juin. De son côté, le président du Conseil européen, Donald Tusk, pencherait pour un report flexible plus long, un an, raccourci en cas d'accord des députés britanniques. Un an paraît trop long, dit-on ce soir à l'Elysée. Un sommet européen exceptionnel s'ouvre demain à Bruxelles.
Allez, à 18h12, Amélie, on termine avec un autre feuilleton dont on a un peu perdu le fil ces derniers temps.
Oui, avec une nouvelle démission à la tête du Média. Le Média, la web télé de gauche, dirigée un temps par Sophia Chikirou, la responsable de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Elle avait été remplacée par Aude Lancelin. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir Amélie.
Notre spécialiste Média. Aude Lancelin part aujourd'hui sur un différent politique, mais surtout très obscur. Hein.
Eh ben oui, hein, voilà qui lance à merveille la saison 3 du Média. Ah ben oui, Amélie, forcément, le Média, c'est un peu comme Game of Thrones, beaucoup de luttes de pouvoir, de guerres intestines depuis son lancement en janvier 2018, qui finira par s'asseoir sur le trône de fer. On ne sait pas encore, en tout cas la saison 2 de l'aveu même d'Aude Lancelin avait débuté avec le départ de Sophia Chikirou l'été dernier. Depuis, tout semblait calme, le Média surfait sur le mouvement des Gilets jaunes. En plus de la direction de la rédaction, Aude Lancelin présidait l'entreprise de presse Le Média. C'est de ce poste-là en fait qu'elle démissionne immédiatement à quelques heures d'un putsch, dit-elle, car ce soir doit avoir lieu le renouvellement du bureau de direction. Aude Lancelin en est persuadée, elle allait se faire évincer. Elle a donc préféré jeter l'éponge, écœurée, épuisée, dit-elle. D'anciens membres, parmi lesquels des fondateurs de la Web TV, seraient sur le point de prendre leur revanche, explique encore la journaliste. Alors revanche sur quoi? C'est toujours compliqué avec le Média, toujours très opaque. Aude Lancelin affirme par exemple que sous sa direction, les audiences de certains programmes ont été multipliés par 10, aucun moyen de vérifier. Pour combien d'abonnés de socios mystères, en tout cas celle qui devrait rapidement quitter la rédaction, promet des démissions en cascade dans les jours à venir. Vous voyez Amélie, on est vraiment qu'au début de la saison 3.
Encore plus fantastique que Game of Thrones. Et l'on savait que Léonard de Vinci était un génie. Des scientifiques peuvent affirmer aussi aujourd'hui qu'il était ambidextre. L'Italien pouvait écrire, dessiner, peindre aussi bien de la main droite que de la main gauche. Conclusion de chercheurs au musée des Offices de Florence. D'après l'étude de son dessin, le paysage, la plus vieille œuvre du maître de la Renaissance.
Eh ben,
ton préféré Game of Thrones à Léonard de Vinci. J'ai bien compris.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il faut savoir si on est ambidextre ou pas quand on manie l'épée, le sabre et le reste. C'est tout ce que j'ai à dire. Amélie, sinon, vous revenez dans Un jour dans le monde.
Sous les radars ce soir, on va parler de la justice qui poursuit un ancien président en Roumanie, Ion Iliescu, pour crime contre l'humanité. Le Zimbabwe, lui, restitue des terres et indemnise les fermiers blancs expulsés au début des années 2000. Et puis trois artistes majeurs vont faire leur adieu au Montreux Jazz Festival cette année en Suisse.
Et on verra verra ça ensemble. Il sera autour de quelle heure, Amélie ?
18h37.
C'est beau, ce soir, nous sommes aussi en Israël, dans la société israélienne qui vote en ce moment. Je vous emmène aussi écouter les fonds marins autour du porte-avions Charles de Gaulle avec des oreilles d'or, une chasse aux sous-marins, même grâce à Franck Cognard. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Je vous le remets, tiens, justement, dans l'oreille. Le grand débat a parlé, l'exécutif, lui, pas encore, mais le Premier ministre, depuis hier, donne des pistes sur ce qui a été compris. Alors, est-ce que ça correspond aux contributions ? Est-ce que les contributions représentent des avis dont on peut faire des généralités ? On en parle avec nos invités au 01 45 24 7000.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Voilà, Sébastien Léas, un temps encore perturbé pour demain.
Oui, demain, la perturbation pluvieuse située au nord va lentement glisser jusqu'au bord de la Loire et à la Franche-Comté, permettant le retour d'éclaircies sur le Nord-Pas-de-Calais l'après-midi. Les régions les plus au sud et le massif central auront un temps instable avec des averses localement orageuses. C'est à l'est du Rhône que les averses seront le plus actives dès le matin, avec également des risques de grêle demain après-midi. Sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et la Corse, la limite pluie-neige se situera vers 1400-1500 mètres d'altitude. Sous l'effet des brises de mer, les plages de l'Atlantique entre les Landes et la Vendée auront un soleil radieux. Sur le reste du pays, l'apparition du soleil sera parfois retardée par les grisailles matinales. L'après-midi, les développements nuageux pourront aller jusqu'à l'averse, avec même quelques coups de tonnerre du côté du Jura.
Et sinon, petite baisse des températures maximales.
Oui, essentiellement sur la moitié nord, en particulier sur le nord-ouest, à cause de l'arrivée de la perturbation. Il fera à peine 10 degrés à Caen, 13 degrés à Reims, Vannes et Metz, 14 degrés pour Lille et La Rochelle. On ira jusqu'à 15 degrés à Paris, Dijon, Biarritz et Bastia, 16 degrés pour Limoges, Nice et Lyon, 17 degrés sur les bords de la Garonne et 19 degrés pour Montpellier et pour Marseille.
Sébastien Léas de Météo France. Merci Sébastien, à tout à l'heure après 19h.